France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midi de Culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. À 13h, comme promis, je serai en compagnie du comédien Denis Podalydès. On parlera de son livre « L'ami de la famille ». Mais d'abord, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Marie Sorbier.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il dans le théâtre public? L'annonce de Wajdi Mouawad, directeur de La Colline, de ne pas finir son mandat hier, fait suite à deux autres défections. Stéphane Brunschweig a quitté l'Odéon en 2024 et Jean Bellorini, directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, s'arrêtera lui en décembre 2026. Que disent ces départs anticipés de l'état du théâtre en France? C'est le dossier du Point Culture du jour. Marcel Poisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Paris 8, spécialiste de politique et d'économie de la culture. Alors, comment réagissez-vous à ces démissions avant la fin des mandats de direction?
Alors, je crois que ces démissions, alors qu'ils sont d'ailleurs pas toutes des démissions, hein. Il y a plutôt principalement des gens qui annoncent qu'ils ne seront pas candidats à leur propre succession, ou en tout cas des départs anticipés. Je crois que c'est le symptôme de plusieurs choses qui ont commencé même antérieurement à cette période. Le cri d'alarme est arrivé des compagnies. On a des gens comme Joël Pomera qui, dès 2023, alertait sur la question de la pénibilité des conditions de travail, des réductions de temps de répétition, des réductions de temps d'exploitation des spectacles. Donc, je dirais que les compagnies ont été très, très en alerte. Ariane Mnouchkine également, qui a énormément communiqué sur ces questions-là.
Joël Pomera, je vous coupe, mais Joël Pomera qui a toujours, lui, refusé de prendre la direction d'un lieu, justement.
Tout à fait, voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, Joël Pomera, qui a été plusieurs fois sollicité pour prendre la direction d'une grande maison de théâtre, souhaitait rester dans l'énergie de la compagnie et constatait lui-même, finalement, qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble du système qui était fragilisé et qu'à travers les attaques sur les grandes maisons de théâtre, finalement, les choses se répercutaient assez massivement sur les compagnies. Un signal qui a été partagé par de nombreuses troupes, je pense en particulier au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, qui multiplie également les mises en œuvre. Mais là, ce à quoi on assiste, en fait, c'est des directeurs de théâtre qui ont été en responsabilité depuis fort longtemps. Stéphane Brunschweig, c'est quand même quelqu'un qui a dirigé pendant 8 ans le Théâtre National de Strasbourg, qui a dirigé pendant 6 ans le Théâtre National de la Colline, 10 ans à l'Odéon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un quart de siècle de responsabilité sur des grands établissements et qui là prend acte du fait qu'il n'est plus en mesure d'honorer le cahier des charges face à des injonctions des institutions publiques qui demandent de faire toujours plus avec toujours moins de moyens.
Alors peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu plus, parce que c'est vrai que quand on voit le budget de l'Odéon, l'Odéon c'est un théâtre national à Paris, le budget semble assez conséquent quand on regarde les chiffres. Alors comment expliquer ce que Stéphane Brunschweig a dit en partant, c'est-à-dire qu'il n'avait plus assez de marge artistique pour programmer ou créer?
Bien, on a plusieurs phénomènes. Alors effectivement, on pourrait se dire à première vue que des établissements comme l'Odéon ou la Comédie-Française, qui a été également très fortement impactée par l'austérité budgétaire, sont dans un confort relatif. Mais il faut quand même penser que ce sont des équipes lourdes, des théâtres, des établissements patrimoniaux, donc avec une mission en plus d'entretien du patrimoine qui est à peu près partout dans le théâtre, plusieurs salles, une programmation très très importante, des accueils d'artistes étrangers et surtout des missions sociétales également en termes de politique des publics qui sont très très ambitieuses, des missions d'action culturelle et artistique, d'éducation artistique qui se rajoutent aux enjeux proprement artistiques. Donc on a un effet de saturation qui s'explique, je dirais, par trois facteurs principaux. D'abord, des raisons structurelles. Le théâtre coûte cher, ça n'est pas une industrie culturelle et créative, comme on le dit parfois aujourd'hui. Et ça a été montré dès les années 60 par un économiste américain qui s'appelait Baumol, la fameuse loi de Baumol, qui dit que le théâtre est structurellement déficitaire, puisque l'évolution, contrairement à d'autres secteurs, toute innovation technologique produit non pas une économie, ne permet pas de rationaliser le processus de travail, mais au contraire une dépense supplémentaire. Donc on a un effet comme ça d'impossibilité de bouclage qui jusqu'à récemment était compensé par la tutelle. C'était toute la philosophie de la subvention que de dire seul l'État peut se porter garant d'un secteur considéré comme essentiel pour la vie dans la cité, mais qui ne peut générer des bénéfices et qui même bien géré finalement va produire des pertes. À ça s'ajoute aujourd'hui des effets conjoncturels. Et c'est ça que dénoncent les directeurs sur le départ, ce qu'on pourrait appeler un effet ciseau. Tout d'abord, on a des baisses quand même importantes de subventions. Le Théâtre de la Colline, c'est quand même 500 000 euros de dotation en moins cette année imposée par les mesures d'austérité de Bercy au ministère de la Culture. Le Théâtre National Populaire de Jean Bellorini à Villeurbanne, autre directeur sur le départ, s'est vu amputé de 350 000 euros par la région. Donc on a vraiment, pour la première fois depuis fort longtemps dans les politiques culturelles, des vraies baisses importantes. Et qui, finalement, coïncide avec un moment où on a également une augmentation des charges fixes importantes. Donc, il y a un surcoût qui n'est plus compensé par la subvention et une injonction de la tutelle à rechercher des fonds propres. Donc, on demande à ces théâtres de rechercher, générer des ressources.
Donc, de se rapprocher du secteur privé, par exemple ?
Alors voilà, puisqu'en fait, le Théâtre de l'Odéon, c'est 97% de remplissage. Donc, on est vraiment dans...
Oui, on ne peut pas faire mieux.
Voilà, on ne peut pas faire mieux. On est vraiment dans le taux de remplissage maxi. Donc, du point de vue de la billetterie, il n'y a aucun levier. Donc, c'est des théâtres qui sont en train de développer des services de mécénat et donc d'inventer une nouvelle culture d'articulation entre les aides de l'État, la subvention publique et des aides privées qui potentiellement pourraient constituer une remise en cause de leur liberté artistique, ce qui n'est pas le cas en France. C'est des théâtres qui sont très prudents dans leurs partenariats, qui font d'ailleurs des partenariats éthiques, qui n'envisagent pas, par exemple, d'être subventionnés par des grandes agences de pétrole. Enfin, voilà,
Faire aux États-Unis, déjà.
Comme ça peut se faire aux États-Unis, tout à fait. Donc, il y a une autocensure à ce niveau-là qui est aussi également importante et qui est à mettre au crédit de ces théâtres. Puis, il y a une dernière raison, qui est peut-être la plus profonde, c'est que ces grandes maisons doivent négocier la transition écologique. On est face à des bâtiments historiques et patrimoniaux qui sont des passoires thermiques. On est face à des bâtiments où il y a un coût d'entretien qui est très très conséquent et qu'il va être très très difficile d'adapter aux critères de soutenabilité de production qui sont requis aujourd'hui.
Alors quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que finalement, être directeur de théâtre aujourd'hui, en tout cas d'une grande maison de théâtre public, la fonction a changé en fait. On n'est plus sur un artiste programmateur qui crée ses spectacles et qui va voir ceux des autres pour les ramener. On est vraiment sur un gestionnaire.
Oui, alors ça, c'est une autre spécificité importante, c'est qu'effectivement, ces maisons de théâtre, pour des raisons politiques, qui ont été des choix vraiment, je dirais quasiment depuis Malraux, sont dirigées par des artistes. On pourrait très bien imaginer une double tutelle artiste.
En tout cas, pour les CDN, les Centres Dramatiques Nationaux, et pour les théâtres nationaux, ce qui n'est pas le cas des scènes nationales.
Absolument, tout à fait. Mais là, les départs dont on parle, c'est effectivement des artistes qui considèrent que le cahier des charges n'a cessé de s'alourdir, que leur intégrité artistique n'est plus garantie. Il y a une époque où on pouvait se dire être à la tête d'un théâtre comme ça, ça permet aussi de poursuivre un geste artistique, de pérenniser des collaborations. Mais maintenant, en fait, les charges connexes sont tellement importantes, charges pour lesquelles les artistes ne sont pas toujours formés. On parle d'artistes qui sont tout à coup directeurs d'équipes potentiellement très importantes, qui ont donc des fonctions managériales, qui peuvent parfois d'ailleurs les mettre en porte-à-faux par rapport aux amitiés qu'ils ont pu nouer avec des artistes, qui sont tout à coup très courtisés, puisqu'évidemment, on veut se faire programmer. Donc, il y a une sorte de solitude qui s'installe également et de difficultés à maintenir des programmations équitables. Et puis, il y a aujourd'hui une sollicitation absolument constante. Moi, ce que j'entends dans les déclarations qui ont été faites par Wajdi Mouawad, directeur de la Colline, Jean Bellorini, directeur du Théâtre National Populaire, Stéphane Brejvec, c'est une sorte d'usure des responsabilités et le désir de reprendre du souffle. Alors, parfois, en revenant à la compagnie, c'est Wajdi Mouawad qui dit que, je cite, il souhaite se consacrer entièrement à son travail d'auteur et d'artiste dans différents champs de la création. Donc, il y a un recentrement sur le travail personnel.
Bellorini, lui, part en Suisse, c'est une autre
Jean
option.
Bellorini, voilà, qui part à l'étranger, alors au Théâtre de Carouge, qui est un très beau théâtre, mais avec une équipe peut-être plus resserrée.
Et
avec
un théâtre neuf aussi, ce qui change un peu ce que vous disiez sur toutes les problématiques écologiques qu'il n'aura pas à
tout
gérer,
à
puisque le théâtre a été pensé pour ça.
Oui, absolument. Donc, c'est vraiment les théâtres nouvelle génération qui sont vraiment conçus en phase avec leur environnement. Un effet de taille aussi qui est tout à fait important et qui montre que, paradoxalement, la France, qui était quand même le pays d'attractivité pour beaucoup d'artistes d'Europe et au-delà, finalement, laisse maintenant partir ces artistes, faute de pouvoir leur donner des moyens de travailler. C'est intéressant ce que dit Jean Bellorini, c'est « moi, je suis entré dans le théâtre comme un aventurier, je suis arrivé au Théâtre National Populaire en pensant reprendre la grande aventure de mes devanciers et puis j'ai l'impression de devenir un chef d'entreprise. » Voilà, donc c'est ça, c'est les tâches gestionnaires finalement qui prennent le pas et qui vampirisent l'œuvre du créateur qui devrait rester le cœur des politiques de programmation et de direction de ces établissements.
Bien, merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Martial Poirson.
Merci à vous.
Et pour finir, Marie, un documentaire sur l'utilisation par l'armée française de gaz pendant la guerre d'Algérie a été déprogrammé par France Télévisions.
Oui, Algérie section armes spéciales devait être diffusé ce dimanche sur France 5, mais il ne sera finalement disponible qu'en ligne. Ce film révèle comment l'armée française a fait usage de gaz toxique en Algérie entre 1954 et 1959. Cette déprogrammation a lieu dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays et fait suite notamment à la récente mise en retrait de Jean-Michel Apathy de RTL après la comparaison des crimes de guerre français en Algérie et du massacre d'Ouradour sur Glane. France Télévisions précise que c'est un choix lié à l'actualité et programme à la place deux documentaires consacrés à la Russie et aux États-Unis.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.